Bonsoir à tous. Tout d'abord, pour commencer, je souhaitais exprimer de vifs remerciements à Françoise et Laurent, qui ont cœur, donc tous les mardis, d'organiser ces sessions de méditation sur le calme mental, basées sur les éléments. Donc, tous les mardis soirs, on vous présente ces éléments en vous disant de rester bien concentré dessus, mais ne surtout pas les analyser, juste dans l'observation. Tous les mardis soirs, ils vous disent ça. Et puis, donc ce soir, ils m'ont demandé d'enseigner sur le sens de ces symboles, de ces éléments. Bon, je ne sais pas si vous avez un peu compris le concept, mais en gros, l'idée, c'est c'est de vous parler de tout ce que vous ne devez pas faire en fait pendant ces sessions là. Donc je me demande si c'est pas un peu pour me faire plaisir qu'ils m'ont demandé d'enseigner ce soir. Je dois donner l'image d'un moine qui aime bien parler, hein. C'est vrai, j'aime bien parler. Qu'est-ce que j'aime bien parler? C'est une des choses qui me distrait le plus de ma méditation. Bon, ceci dit, donc commençons par peut-être méditer un peu. Et ce que je vous propose, c'est juste 2 minutes de se mettre à l'aise. François Zohan, peut-être que vous voulez guider cette mise à l'aise. Non, pas spécialement. Donc, bah...
On profite.
Pendant 2 minutes, donc simplement essayer de s'asseoir quand même un peu droit, histoire de que les énergies circulent bien, mais sans forcer, pas être aussi droit que pendant une méditation formelle, mais quand même pas le dos courbé. Puis vous pouvez poser les mains sur les genoux, par exemple, histoire de se mettre à l'aise, mais c'est comme vous le sentez. L'idée, c'est vraiment pendant 2 minutes juste de se mettre à l'aise, de se sentir bien tel que l'on est. Alors, si vous savez pas trop comment vous mettre à l'aise, en fait, simplement, instant après instant, observez comment vous vous sentez à l'aise. Essayez de voir si vous vous sentez à l'aise, et si vous pouvez vous détendre plus ou si vous êtes déjà détendu. Mais cette observation, elle ne doit pas être, ça ne doit pas être un jugement, mais vraiment une observation d'instant en instant. Ça veut dire à chaque instant, vous regardez comment vous vous sentez à l'aise. Et si vous faites ça minutieusement, eh bien, en fait, vous n'allez pas avoir le temps d'être distrait par quoi qui s'élève. En fait, donc, si on s'exerce comme ça, on va s'habituer à être à l'aise tel que l'on est. Donc, pour ceux qui m'ont déjà écouté, donc, vous pouvez vous rappeler du slogan du McDo. Mais l'idée, c'est ça. En fait, lorsqu'on dit de se mettre à l'aise en méditation, ce n'est pas forcément de se chercher à avoir de bonnes sensations ou être complètement détendu. L'idée d'être à l'aise, c'est vraiment donc d'avoir de l'espace, de sorte à apprécier comment on est dans l'instant même. Si par exemple, on rentre chez soi, qu'on est anxieux, et ben à ce moment-là, donc, lorsque vous vous asseyez, juste appréciez donc l'état dans lequel vous êtes. Et à partir du moment où vous faites ça vraiment en suivant instant après instant, eh bien, vous n'allez pas suivre vos émotions ou vos pensées, mais juste observer finalement donc, comment votre corps s'exprime et lui laisser suffisamment d'espace pour que cette expression se fasse dans l'aise. Ensuite, si vous n'avez pas de questions particulières à ce sujet, sinon surtout, oui, une chose aussi, n'hésitez pas pendant l'intervention, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main pour vous exprimer. Et donc, pour recevoir, donc s'il n'y a pas de questions, pour recevoir pour partager ces instructions, en fait, on va générer un état d'esprit qui soit propre à recevoir ces enseignements. Et donc, notamment, donc, comme il s'agit d'enseignements du grand véhicule, donc il convient notamment donc d'avoir un esprit, d'avoir un esprit altruiste. Donc, quelles que soient nos croyances ou nos aspirations, au moins donc, pendant cet enseignement, on développe l'idée que ce que l'on va recevoir, eh bien, on le reçoit dans l'idée que cela puisse être bénéfique à tous, non seulement à nous-mêmes, mais également donc à tous ceux avec qui nous entrons en interaction. Et donc pour cela, vous avez l'habitude de réciter le refuge. Je vous propose que vous le faites. Et pendant ce temps-là, moi, je réciterai mes prières à voix basse. Comme vous voulez, vous faites comme vous faites d'habitude, comme le groupe du mardi a l'habitude de le faire.
En l'écoutant, Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge. Par les bienfaits des dons et vertus que je m'éveille pour tous les vivants. En les Bouddhas, Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge. Par les bienfaits des dons et vertus que je m'éveille pour tous les vivants.
Alors pour commencer, concernant donc ces fameux cinq éléments, d'une façon générale, en fait, lorsqu'on s'engage dans des pratiques de méditation, il est important, c'est vraiment important de savoir où est-ce qu'on va, quel est le but de la méditation. Et le but profond de la méditation, eh bien, c'est de reconnaître la nature des choses. C'est aussi simple que ça. C'est reconnaître comment les choses sont dans leur essence même. Donc, peut-être que cette façon de dire peut vous étonner. Peut-être que certains d'entre vous se disent, mais moi je croyais que le but de la méditation, c'était d'être heureux, de connaître le bonheur. Mais en fait, c'est complètement lié. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y a pas ce regard sur comment les choses sont dans leur réalité, mais tant qu'on a le regard ordinaire de nos illusions, et de nos discriminations, eh bien, inévitablement, par cette approche, cette façon de voir, cette façon de se saisir de notre monde extérieur, eh bien, cette approche même est source de souffrance. Et par conséquent, tant qu'il y a, on est donc dans nos propres illusions, eh bien, quoi que l'on fasse, on n'échappe pas vraiment à la souffrance. Et ça, donc, c'est vraiment un point qui est important à comprendre. C'est pas quelque chose que l'on comprend dans l'immédiat. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, traditionnellement, on dit que dans la méditation, il y a deux aspects. Un aspect qui est la méditation dite analytique, c'est-à-dire une méditation qui est de l'ordre de la réflexion. On réfléchit, par exemple, sur la chance qu'on a dans cette vie. Donc, on réfléchit par exemple sur la souffrance qu'il y a, la souffrance inévitable qu'il y a dans l'existence ordinaire. On réfléchit sur les différents sens des enseignements, comme par exemple les quatre nobles vérités. Donc tout ceci procède de la méditation analytique. C'est une façon, donc, tout en étant assis, eh bien, on va réfléchir sur le sens des enseignements, sur le sens de la vie, le sens du bonheur, etc., suivant les instructions que l'on a reçues. Ça, c'est la partie d'analyse. Et c'est notamment cette partie qui va permettre de comprendre pourquoi il est si important de chercher à voir les choses dans leur nature même, de voir les choses dans leur essence. Et donc, pour cela, se défaire de notre façon ordinaire de voir qui est toujours guidée par une perception dualiste, par des concepts de la discrimination, moi, autrui, le bien, le mal, homme, femme, etc. Et ça, c'est un point donc, qui n'est pas évident à comprendre, mais dont la compréhension est fondamentale. Parce que s'il manque cela, eh bien, vous pourrez faire de la méditation, vous asseoir, vous mettre à l'aise, ressentir une forme de bien-être. Ça sera la forme de la méditation, ça pourrait avoir le goût de la méditation, mais ça ne sera pas de la méditation. Et donc voilà, ça c'est un point important en fait à avoir en tête, comprendre donc pourquoi on recherche à voir les choses dans leur nature même. Et le deuxième aspect de la méditation, c'est justement comment on fait pour arriver à cette perception de la nature des choses. Et pour cela, donc, c'est le deuxième aspect de la méditation qui est la méditation dite contemplative ou en d'autres termes non analytique. Autant dans la première forme de méditation, on va chercher à comprendre les choses, à réfléchir, à éclairer nos doutes ou toutes choses qui peuvent nous rendre sceptiques, autant dans la méditation contemplative, eh bien, on va abandonner toutes ces constructions ordinaires. On va chercher justement, au contraire, à demeurer dans un état qui est sans fabrication. Et c'est la raison pour laquelle Françoise et Laurent, tous les mardis soirs, insistent tant, lorsque vous observez ces objets, de ne pas essayer de les caractériser, de ne pas construire dessus. Pour autant que possible se rapprocher cette qualité naturelle qu'a notre esprit de pouvoir voir les choses au-delà de nos filtres habituels. Et en fait, pour illustrer cela, on peut prendre l'exemple d'une flamme d'une bougie, comme il y en a plein ici. Cette flamme, par nature, elle permet d'éclairer et de voir les choses. Mais si cette flamme, elle est sous la turbulence du courant d'air, etc., elle va vaciller. Et puis, on peut comprendre facilement que, par exemple, si vous êtes dans le noir, vous allumez une bougie, mais qu'il y a du vent et que la flamme vacille, vous n'allez pas bien voir ce qui se passe autour. Ça va, vous allez voir qu'il y aura de la lumière, mais vous ne pourrez pas apprécier ce qu'il y a dans cette pièce obscure, parce que la flamme n'arrête pas de vaciller. Mais en revanche, si la flamme se tient bien droite parce qu'il n'y a aucune perturbation autour d'elle, là, vous allez pouvoir clairement apprécier tout ce qu'il y a dans la pièce obscure. Vous pouvez observer, vous pourrait observer tous les décors ou les tableaux qui seront accrochés dans les murs, etc., avec cette simple bougie. Eh bien, en fait, il en est de même, on peut dire ça. Notre esprit marche d'une façon très semblable. C'est-à-dire que si notre esprit n'est pas sous les perturbations du vent, de nos pensées, de nos émotions discursives, etc., eh bien, il a cette faculté de voir clairement. Et ça, même intuitivement, on le comprend dans la vie de tous les jours. Si, par exemple, on est sur le coup d'une grosse colère ou d'une grosse émotion, c'est bien qu'à ce moment-là, il ne faut pas prendre de décision. C'est le pire moment pour prendre des décisions. Parce que, justement, à ce moment-là, l'esprit est trop dans l'agitation. Et donc, comme il n'y a pas cette capacité de discernement, on ne va pas prendre les décisions qui conviennent. Et au contraire, on sait bien, à chaque fois qu'il y a quelque chose d'important, une décision importante à faire, ou même si on doit étudier quelque chose, qu'on doit travailler sur un projet qui est important, la chose qu'on fait naturellement, c'est s'isoler du bruit, etc. S'isoler notamment de toute agitation qui pourrait stimuler nos pensées ou nos émotions d'une façon excessive pour pouvoir voir clair, pour pouvoir réfléchir. Donc, même dans la vie de tous les jours, dans notre façon de fonctionner, on a instinctivement cette compréhension. Et en fait, lorsqu'on va vraiment au fond des choses, on réalise également par notre expérience que plus on va avoir cette capacité à demeurer sans construire de pensée, sans nourrir nos émotions, et plus notre esprit va avoir la capacité de voir les choses clairement. Donc, ceci dit, il ne faut pas non plus tomber dans le piège qui est de croire que pendant cette méditation contemplative, on doit chercher à bloquer toutes les pensées ou toutes les émotions. Tout simplement parce que si vous cherchez ça, si vous rentrez dans ce mécanisme, eh bien, en cherchant à bloquer vos pensées, vos émotions, en fait, vous fabriquez quelque chose. Bloquer une pensée, c'est utiliser une pensée pour contrer une autre pensée. Bloquer une émotion, c'est utiliser une autre émotion ou un raisonnement pour bloquer cette émotion. Et en fait, si vous faites ça, vous vous rendez compte que vous êtes encore dans la construction finalement. Donc, alors que vous cherchez à vous extraire de vos constructions mentales et émotionnelles habituelles, en fait, vous ne faites que les renforcer. Vous ne faites que continuer à être distrait par eux. Et d'ailleurs, vous pouvez essayer. Une des premières expériences que vous ferez, c'est que ça ne marche pas. On dit chasser le naturel et il revient au galop. Et ça, vraiment, donc on le sent. Donc même souvent, au début, on fait l'erreur, mais il convient donc de garder ça en tête, de comprendre que c'est une erreur qu'il faut autant que possible abandonner. Et justement, en fait, lorsqu'on s'entraîne dans un premier temps à se mettre à l'aise, eh bien, c'est être à l'aise avec soi-même. Donc, comme pour rappeler ce slogan de McDo, on entre dans la méditation comme on vient au McDo, c'est-à-dire on vient comme on est. Et donc, dans la méditation également, il n'y a pas de jugement, on ne doit pas avoir de jugement, on ne va pas essayer de construire les choses, c'est simplement on est dans la contemplation des choses telles qu'elles sont dans l'instant présent. Que ces choses nous plaisent ou ne plaisent pas, juste on prend conscience de cela. Et le fait d'avoir cette capacité à demeurer dans l'instant présent, notamment en ayant l'esprit concentré sur un support, eh bien c'est ce qui va nous aider à ne pas être distrait par tout ce qui s'élève. Et plus on va être capable ainsi d'être concentré, être conscient des choses dans l'instant présent, et plus en fait on va se rendre compte que finalement ces choses qui nous distraient, eh bien, ont moins de force sur nous, et finalement vient naturellement cet espace qui va faire que, parce qu'on devient plus familier avec nos émotions, nos sensations, avec le fait qu'on se rend compte que finalement si on ne les suit pas, ils n'ont aucune saisie sur nous, une pensée elle est aussi réelle qu'elle puisse apparaître, et eh bien elle est aussi fugace, aussi rapidement qu'elle est apparue, aussi rapidement elle disparaît. Et c'est pareil pour nos émotions, toutes nos constructions illusoires, elles ont donc cette qualité incroyable d'être très évanescentes. Et ça nous amène justement à ces fameux cinq éléments. Donc pourquoi en fait Donc, quelle est la particularité de cette méditation basée sur les cinq éléments? Donc, d'une façon générale, dans la méditation du calme mental, on cherche simplement à apaiser son esprit. Pour justement, plus il va avoir ses qualités d'être apaisé, et plus il va pouvoir voir les choses clairement, pouvoir se familiariser avec lui-même. Donc on comprend bien ici que la méditation du calme mental, en fait, c'est un peu comme le pain de la méditation. C'est ce qui va permettre de constituer l'outil qui, ensuite, dans un second temps, va nous permettre de voir la nature des choses. Et donc, pour entrer dans les termes techniques, on parle en sanskrit donc de samatha pour parler de cette méditation du calme mental. Et puis, une fois que cette méditation est très bien établie, ou lorsqu'on est très familiarisé avec nos émotions et nos pensées, notamment donc avec leur façon de fonctionner, on est tellement habitué à leur caractère évanescent que au bout d'un moment, toutes ces manifestations naturelles de l'esprit n'ont plus d'emprise sur notre concentration. Et à partir de ce moment-là, il y a une profondeur de regard qui va nous permettre de voir, de reconnaître les choses dans leur nature. Et donc, cette reconnaissance, elle est donc dans un deuxième temps, ce qu'on appelle la méditation de vipassana, ou de vision supérieure. Mais pour que cette vision puisse être possible, dans un premier temps, il faut que notre esprit s'habitue à ce calme mental. Vous vous souvenez, on revient à l'image de la flamme. Tant que la flamme de l'esprit est agitée par les émotions et les pensées, il est impossible, même si on essaye de s'y exercer, de voir les choses clairement. Si on est facilement distrait par nos émotions et nos pensées, en fait, on voit là où nos émotions et nos pensées nous attirent, mais on ne voit pas la nature de ces émotions, on ne voit pas la nature de ces pensées. Et c'est fou parce que finalement, ça se passe devant nous, mais on n'arrive pas à le voir. Et donc, pour travailler à cette reconnaissance, dans un premier temps, donc on a recours à cette méditation du calme mental. Pour cela, il y a une multitude de techniques. Donc, on peut, par exemple, pour rester concentré dans l'instant présent, s'appuyer sur l'attention portée sur le souffle. Par exemple, donc c'est typiquement le type de technique qu'on peut utiliser, par exemple, pendant ces méditations dans les éléments. Vous savez, on alterne, il y a des moments où vous visualisez, où vous êtes concentré sur la forme, et puis il y a des moments où simplement on est en méditation. Et à ce moment-là, dans ces moments-là, vous n'avez pas d'objet sur lequel vous pouvez vous concentrer en particulier. L'idée, c'est simplement de demeurer dans l'instant présent, donc de demeurer dans cette familiarité, donc demeurer dans la non-distraction, dans le fait d'être dans l'apaisement, dans le calme mental. Mais si, par exemple, vous n'êtes pas très à l'aise à simplement rester concentré dans l'instant présent sans aucun guide ou un support, vous pouvez, par exemple, vous appuyer sur la respiration, ou alors vous appuyer sur les sensations du corps, etc. En fait, à ce moment-là, vous pouvez utiliser tous les supports qui vous sont disponibles pour maintenir cette attention. Et d'une façon générale, tout cela constitue les différentes techniques de méditation du calme mental. On peut s'appuyer sur la respiration, on peut s'appuyer sur les sensations évanescentes qui s'élèvent, qui disparaissent, etc. Ou sur les sons que l'on entend, etc. Donc il y a une multitude de supports possibles. La particularité donc de la méditation sur les cinq éléments, c'est qu'elle va nous amener dans un second temps à reconnaître ces cinq éléments. Alors qu'est-ce qu'ils ont de si important, ces cinq éléments? Pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse? Donc comme on avait dit au début, le but ultime ou profond de la méditation, c'est de reconnaître la nature des choses. Et si notre regard va vers la nature des choses, on va s'apercevoir que les phénomènes, d'une façon universelle, s'expriment au travers de cinq qualités qu'on appelle justement ces cinq éléments. Il est important donc de comprendre cela. J'ai utilisé le mot qualité parce que donc un des sens trompeurs lorsqu'on parle de cinq éléments, c'est qu'on a l'image donc de cinq choses qui sont concrètement ou matériellement palpables. Mais ici, donc dans le contexte de la méditation, lorsque l'on parle des cinq éléments, en fait, on parle de cinq qualités que possèdent toutes choses, notamment l'environnement extérieur et donc par conséquent notre propre corps, mais également notre esprit. Et donc ces cinq qualités, pour les nommer, premier élément c'est l'élément terre, deuxième eau, troisième feu, quatrième air ou vent, et le cinquième espace. Et donc pour les comprendre, en fait, on a parlé de qualité, l'élément terre, pour le comprendre, en fait, on doit le comprendre comme étant la qualité de solidité. L'élément eau, pour le comprendre, en fait, on doit comprendre la qualité de tout ce qui est fluide. L'élément feu, eh bien, on va le comprendre comme étant tout ce qui a la qualité de la chaleur. L'élément air, comme étant tout ce qui a, ou l'élément vent, tout ce qui a donc, justement, c'est les qualités qui sont liées au vent, les souffles, etc. Et l'élément espace, le plus abstrait, donc, correspond donc à la qualité d'espace qu'ont les choses. Et le terme de qualité est important à comprendre parce que, par exemple, même pour un même élément, là ici lorsqu'on parle d'éléments matériels, comme par exemple l'eau peut présenter ses différentes qualités. Lorsqu'il est sous la forme de glace, il apparaît sous l'élément terre, élément solide. Lorsqu'il est à l'état liquide, donc on parle d'élément eau, et lorsqu'il est à l'état de vapeur, donc il représente l'élément air. Et donc là, on peut voir comment même une même substance, une seule matière peut présenter ses différentes qualités. Et en fait, là, l'idée ici, lorsqu'on parle de ces cinq éléments, c'est le fait d'observer que finalement, tout notre environnement extérieur, il existe au travers de ces cinq qualités. Donc la qualité de solidité, la qualité de fluidité, la qualité d'énergie ou de chaleur, la qualité donc de courant ou de vent et la qualité d'espace. Et si notre monde existe extérieurement, eh bien il existe au travers de ces cinq qualités. C'est-à-dire que tout au final est une combinaison de ces cinq éléments ou de ces cinq qualités. Par exemple, les choses existent extérieurement à nous parce qu'il y a d'abord, la qualité d'espace, parce qu'il y a un espace et que dans cet espace, eh bien, il peut y avoir des éléments solides, des éléments liquides, des éléments une certaine énergie qui vont faire que tous ces éléments, terre, air, espace, etc., vont interagir entre eux. Toute la vie, tout le mécanisme d'évolution de notre monde extérieur, eh bien, est basé sur ces cinq qualités ou ces cinq éléments. Et aussi, donc, une autre raison pour laquelle j'utilise le mot qualité, c'est parce que, comme on avait évoqué au début, il ne s'agit pas donc de éléments qui sont vraiment dissociés ou indépendants les uns des autres. Ce qu'on va en fait vraiment arriver à mettre en valeur par la suite. Notamment, ces cinq éléments, on les aborde dans la tradition du véhicule des mantras secrets, notamment par rapport au corps. Donc la méditation avant tout est un travail sur l'esprit, mais en raison du lien intime qu'il y a entre notre propre corps et notre esprit, eh bien, le travail du corps, eh bien, va se faire au travers du regard de ces cinq éléments, de ces cinq caractéristiques. Donc, à un niveau grossier, donc on retrouve ces cinq qualités que sont les cinq éléments dans notre propre corps. Donc, par exemple, les os, la chair constituent tout ce qui est l'élément terre, qui présente une certaine solidité. Ensuite, tout ce qui est sang, fluide corporel, etc., tout cela est associé à l'élément eau. Ensuite, l'énergie corporelle, tout ce qui fait notre vitalité, l'énergie vitale, etc. Toute cette énergie, cette chaleur corporelle qu'on a naturellement est associée à l'élément feu. Ensuite, notre corps, il respire, il est traversé de plein de souffles subtils, plus ou moins matériellement évidents. Et donc, ces souffles sont associés à l'élément air ou l'élément vent. Et notre corps existe parce que donc, tous ces éléments peuvent s'agencer dans un espace. Et parce qu'il y a un espace qui permet justement donc, à ces éléments de se placer. Donc ça, c'est le niveau, on va dire, grossier de ces cinq qualités. Mais comme on l'a évoqué, ces cinq éléments ou ces cinq qualités ne doivent pas être perçues comme de façon séparée, comme par exemple comme la chair serait l'élémentaire et qui serait différent du sang qui serait l'élément eau, etc. En essence, ces cinq qualités, en fait, elles sont intimement liées. Intimement liées pour, en fait, je dis ça pour en fait dire qu'en essence, il n'y a pas de différence. Mais on va y venir petit à petit, si on a le temps. Mais on va essayer d'y arriver petit à petit. Et par exemple, dans la tradition du véhicule des mantras secrets, on travaille beaucoup sur les souffles d'énergie. On parle donc du canal central avec les cinq souffles, etc. Et en fait, donc c'est le souffle vital, le souffle ascendant, le souffle descendant, le souffle qui répartit la chaleur dans le corps, etc. Et en fait, là, je ne rentre pas trop dans le détail, sauf si vraiment il y a. Mais donc, en bref, ces cinq souffles présentent également, même si les souffles, d'une façon grossière, sont associés à l'élément vent ou air, chacun en fait de ces cinq souffles est connecté eux-mêmes aux cinq éléments. Par ce fait, on peut commencer à voir à quel point finalement, lorsqu'on parle de la nature des choses, ces cinq éléments ne sont pas des éléments ou ces cinq qualités ne sont pas à prendre comme étant des qualités distinctes. Et lorsque l'on travaille donc dans cette approche par rapport aux éléments, donc non seulement globalement, extérieurement, on se rend compte que grossièrement notre monde extérieur fonctionne par la combinaison de ces cinq éléments ou de ces cinq qualités, mais également cette construction, elle se retrouve dans notre corps, logiquement, puisque notre corps est constitué de la même matière que notre monde. Notre corps vit par interaction avec notre environnement extérieur. Constitué des mêmes substances, il transforme des substances que lui-même recueille de l'extérieur. Et lorsqu'on rentre à un niveau plus subtil, par exemple sur le travail des souffles, et à nouveau on se rend compte que ces souffles sont connectés aux cinq éléments qui cette fois ont plutôt cet aspect de qualité. Et on va ensuite, on n'a pas le temps d'aborder ça dans le détail aujourd'hui, mais on va se rendre compte également que nos humeurs, finalement, notre caractère peuvent être, au niveau essentiel, caractérisés par ces cinq éléments. Et donc ça, c'est un point qui est important à comprendre, notamment, par exemple, si vous lisez des livres sur le processus de la mort, notamment tel que le décrit remarquablement Myingyo Rinpoche dans son dernier ouvrage. Donc à ce moment-là, il parle de la dissolution des éléments, des dissolutions des éléments qui, en fait, caractérisent les différentes étapes au niveau de la mort. Si on a cette perception rigide que ces éléments sont des éléments naturels et que lorsqu'on parle de la dissolution de l'élémentaire, eh c'est forcément la matière qui se dissout dans l'élément air, eh bien on se rend compte que ce n'est pas logique, il y a quelque chose qui ne colle pas. En fait, pour comprendre, lorsqu'on parle du processus de la mort, de la dissolution des éléments, en fait, on parle ici de la dissolution de ces qualités. C'est la qualité de solidité, telle que nous, notre esprit, on le perçoit, qui se dissout dans la qualité de fluidité, la qualité de fluidité dans la chaleur, etc. Et donc voilà, on approche de plus en plus vers l'essence des choses. Donc vraiment, Pour comprendre donc ces cinq éléments, donc on veut bien les comprendre, on doit les comprendre par rapport aux qualités. On parle avant tout de qualité des choses. Qualité de notre environnement extérieur, qualité de notre propre être, qualité de notre comportement. Et finalement, là je vous ai lancé un indice en vous parlant de comportement. Donc ces cinq qualités, en fait, si elles se manifestent apparemment extérieurement à nous, en fait, c'est parce que ces qualités, elles sont de la nature même de notre esprit. Si notre monde extérieur présente des qualités de solidité, de fluidité, de chaleur, par exemple le soleil, le feu, etc., de vent, ou d'air, ou d'espace, toutes ces qualités extérieures, elles existent fondamentalement parce que elles existent à l'intérieur de nous et elles existent, quand on dit à l'intérieur de nous, en fait, il faut comprendre dans l'essence de notre propre esprit. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, mais c'est un élément qui est fondamental parce que à partir du moment où on appréhende les choses de cette façon, eh bien, vient la perception ou la compréhension que finalement tout ce monde matériel extérieur à nous n'est que projection de notre propre esprit. Donc c'est vraiment quelque chose qui est difficile à comprendre. C'est difficile parce qu'on a tellement, par notre façon ordinaire, notre façon conceptuelle et discriminatoire de voir les choses, l'impression, par cette perception ordinaire, on a tellement l'impression qu'il existe un monde extérieur indépendamment de nous, qui existe matériellement, que par ce travail, au travers des éléments pour essayer de voir l'essentiel des choses, venir à la, ne serait-ce qu'à l'idée que finalement toutes ces choses extérieures ne sont rien que des projections de notre propre esprit, ne sont rien que la dynamique ou l'expression des différentes qualités de l'essence même de notre propre esprit, il y a vraiment un fossé. Il y a vraiment quelque chose qui, même si on est un bon croyant, il est difficile d'admettre. Mais justement, le fait d'avoir recours à ces cinq éléments, c'est une façon un peu habile ou pratique de réaliser cette connexion, de réaliser ce pont entre les qualités de l'esprit et finalement les qualités qui sont perçues comme extérieures à l'esprit. Et donc, donc avant de continuer, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vous ont pas paru claires ou... Non? Oui, oui, oui.
Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que vous entendez quand vous parlez d'esprit.
Ha, 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 ha. Très bonne, oui, oui. Donc c'est très bonne question. Donc nous, généralement, là j'utilise simplement le terme courant, mais c'est une très bonne question. Hein. Parce qu'en fait, généralement, lorsqu'on parle d'esprit, nous on comprend notre mental, notre façon de ce qui fait qu'on a conscience des choses, qu'on est capable de réfléchir, ce qui fait qu'on pense que l'on existe en tant qu'individu. Donc c'est habituellement c'est ça qu'on entend justement lorsqu'on parle d'esprit. Je pense, hein. Donc par exemple lorsque vous êtes distrait, vous dites mais j'ai perdu mon esprit ou est-ce qu'il n'y a pas une expression comme ça? Où est-ce que j'ai une... Voilà, avoir l'esprit ailleurs. Donc on identifie beaucoup en fait l'esprit par rapport à nos qualités mentales, à tout ce qui nous fait fonctionner, le fait qu'on puisse réfléchir, entendre, voir, etc. Et croire qu'on existe en tant qu'un individu, donc tout ça généralement même par exemple on va rajouter cette notion d'âme par exemple pour caractériser un esprit qui serait indépendant de tout le reste. Et ça c'est la façon justement ordinaire de voir les choses, c'est-à-dire qu'il y a un esprit qui caractérise moi, mon esprit qui est parti ailleurs par exemple, et puis donc le reste qui n'est pas esprit. Mais justement c'est là où la question est excellente, elle soulève le problème de fond qui est que finalement, justement, si le monde extérieur n'est pas différent de notre propre esprit, au-delà de la discrimination arbitraire que l'on fait dans notre tête de moi et autrui, en dehors de cela, en fait, finalement, le monde extérieur ne présente pas de différence. Il n'y a pas de... Et cette distinction, elle est d'autant plus volatile que finalement, on s'aperçoit qu'il y a une telle interaction, il y a une telle intimité entre le monde notre environnement et nous-mêmes, que toute discrimination est finalement artificielle. Et lorsque on arrive à voir ça, finalement, on se rend compte que finalement, ce qu'on appelle l'esprit, alors que l'on identifiait à quelque chose de très individuel, englobe finalement quelque chose de plus vaste, quelque chose qui, en fait, quand on dit plus vaste, c'est quelque chose qui englobe tout, puisque finalement, lorsqu'on a dit que toutes les qualités qui peuvent exister extérieurement, décomposées au travers de ces cinq qualités que sont les cinq éléments, en fait, existent parce que ce sont des qualités mêmes de l'esprit. Et justement, c'est la difficulté que si on arrive à comprendre cela, cette notion d'esprit elle-même, elle s'effondre, puisqu'il n'y a rien qui ne soit pas compris dans l'esprit. Il n'y a aucune qualité, il n'y a aucune entité qui puisse échapper à l'esprit. Et donc, je ne sais pas si je vous ai pas embrouillé plus, mais... la question est difficile dans ce sens-là.
En fait, si je me comprends, les choses ont la nature d'esprit, et si les choses nous paraissent solides et réelles, c'est parce que l'esprit a
cette qualité de pouvoir solidifier les choses, de fluidifier les choses, etc. Exactement. En fait, quand on voit, on parle de voir ou reconnaître la nature des choses, à ce moment-là, cette reconnaissance ou ce regard, à partir du moment où il est, où on touche à la nature des choses, en fait, il n'y a plus de construction. Il n'y a plus de construction, c'est-à-dire que il n'y a plus de construction mentale. Et ça veut dire notamment que, au travers de cette, lorsque vous avez vraiment ce regard sur la nature des choses, vous sortez de l'analyse. Et lorsqu'on sort de l'analyse, il n'y a plus dans ce regard, il n'y a plus de notion ou de perception d'un observateur et de quelque chose qui observe. Parce que tant que vous êtes en fait dans cela, vous ne reconnaissez pas la nature des choses. Vous voyez les choses au travers d'une construction.
Donc l'esprit dont vous parlez, l'esprit qui imagine qu'on existe, sont dans ce cas-là liés à ce niveau de travail.
Oui, oui. Oui, c'est ça.
C'est
ça veut dire...
entraîne l'autre et l'autre entraîne... Enfin, ils s'entraînent l'un à l'autre jusqu'au moment où on abandonne l'esprit qui croit qu'on existe pour rester juste avec l'esprit qui est là.
Oui. Voilà. Notre faculté de reconnaître la nature des choses, elle nécessite justement qu'on abandonne complètement toutes ces vacillations des pensées et des émotions. Quand on parle de vacillation, c'est une image parce que certaines sont très rigides, comme par exemple la croyance qu'on existe en tant qu'individu, elle est extrêmement rigide. Elle est carrément, comment on dit ça, comme un réflexe. Si quelque chose explose ou la terre se met à trembler, vous n'avez pas besoin de vous dire qu'il y a un danger, etc. Immédiatement, vous allez fuir ou chercher un abri. Donc c'est vraiment une croyance qui est très forte. Mais si vous voulez reconnaître la nature des choses, vous devez... en fait, aller au-delà de ces saisies ou de ces perceptions ordinaires. Et justement, oui, pour faire simple, oui, c'est ça. Et comment dire? Est-ce que ça va? C'est à peu près clair.
Mais ce que vous dites est complètement en correspondance avec l'ensemble des essences, des 36 essences, de la plus grossière jusqu'à la plus subtile. L'esprit, tel que vous le nommez, étant la plus subtile, d'une certaine manière. Au-delà des cinq
Oui.
éléments, des cinq organes de sensation, des cinq organes d'action, etc., 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 jusqu'à la bouddhie.
Mais ouais.
Non,
Si,
c'est
si.
pas en lien.
Si, y a là, mais comment dire ça? Est-ce que je pense en fait si, oui, bon, okay, on va aborder les choses de cette façon. Ensuite, vous me dites si c'est pas clair. Mais donc, comme en fait, une des choses qui est frustrante, c'est que finalement, cette capacité à reconnaître la nature des choses, elle est extrêmement proche de nous, puisqu'en fait, c'est la nature même, c'est comme c'est cette flamme qui éclaire, c'est cette capacité, elle est comme innée en nous. Pour revenir à l'image, donc lorsqu'on a besoin de réfléchir ou de prendre des décisions, on s'isole, on sait qu'on doit laisser notre esprit donc se ressourcer, se clarifier, etc. Donc instinctivement, on sait les choses. C'est juste qu'on ne va pas vraiment, on n'arrive pas à aller au fond, on n'arrive pas à approfondir notre démarche, notamment justement parce que nos conceptions, notre façon de saisir le monde ordinaire est très forte. On a des habitudes horriblement ancrées en nous qui font que justement, malgré cette qualité innée de pouvoir reconnaître la nature des choses, on n'y parvient pas. Et pour montrer en fait à quel point finalement, en fait, lorsqu'on parle de ces cinq qualités ou ces cinq éléments, donc au début on avait évoqué, elles constituent vraiment elles constituent vraiment pardon. Elle caractérise vraiment toutes les manifestations. On a dit notre monde extérieur, etc. Et notre monde, notre propre corps, nos émotions, etc. Et par exemple, ces cinq éléments, on les retrouve également finalement dans le processus même de la construction de notre monde, de nos illusions. Peut-être ça, c'est comme c'est difficile, s'il y a du temps, on verra sur la fin. Mais l'idée, c'est que même dans notre façon de construire les choses, si on y reviendra, je suis obligé, donc on y reviendra. Donc on retrouve ces cinq éléments. Donc avant d'aborder cette partie finale, évoquer juste maintenant le symbole, parce que là j'ai pris beaucoup de temps, mais je vous ai parlé des cinq éléments, mais ensuite, par exemple, pendant la méditation, il y a un aspect symbolique. Donc on va un peu évoquer cela. Tout d'abord, comme le terme le dit très bien, donc ces différents objets qu'on utilise pour symboliser les cinq éléments sont des symboles. Et comme tout symbole, en fait, il y a un aspect qui est arbitraire, qui est de l'ordre du conventionnel. Mais on est bien obligé d'avoir recours à cela, parce que en fait, sans les conventions ou sans les symboles, il est pratiquement impossible de pouvoir toucher à l'ultime des choses. Ce que dit très bien, par exemple, Nagarjuna dans ses stances fondamentales de la voie médiane, dont je donne juste une citation. Il est impossible de montrer l'absolu sans recourir aux conventions. Voilà. Mais, voilà, donc pourquoi on souligne cet aspect? Parce qu'il faut, donc il faut comprendre un peu l'aspect conventionnel de ces représentations. Puisque ces qualités de terre, eau, feu, air et espace désignent quelque chose qui est en fait au-delà de tout concept, comment concevoir la qualité de solidité, comment concevoir la qualité de fluidité. Mais néanmoins, donc, pour pouvoir nous aider à approcher ces qualités essentielles, ces qualités naturelles, on va avoir recours à des symboles. Et donc, par exemple, donc le symbole voilà. Et notamment, dans le véhicule des mantras secrets, on a donc le recours au symbole est très abondant. Il suffit de regarder ce temple. Donc, il y a plein de couleurs qui sont utilisées. Il y a des divinités avec plein de bras ou pas beaucoup de bras. Il y a des formes géométriques qui ressemblent à des mandalas ou des tamas, etc. Donc, on fait le véhicule des mantras secrets. Utilise énormément les symboles justement pour nous aider à voir ce qu'il y a au-delà de ces symboles, d'essayer de voir ce qu'il y a au-delà de nos concepts. Et il est important donc d'avoir ça en tête. Par exemple, chaque symbole va avoir, en fait, dépend de son contexte. Et même dans le véhicule des mantras secrets, par exemple, la couleur jaune, elle va avoir une certaine signification dans un contexte, mais avoir une autre signification dans un autre contexte. Bon, si on a le temps, on développera plus, mais donc l'idée essentielle à garder en tête, c'est cela. Par exemple, vous voulez les faire tous ou pas? Oui, on va les faire rapidement. Combien de temps il reste?
Que tu veux.
Ça dépend un peu de vous. On est. Ok. Ouais. Bon, oui, on va faire comme ça. On va présenter les éléments. Je sais pas si vous voulez méditer un peu dessus. Ou... Ok. Donc, par exemple, pendant la méditation, on commence. Il y a l'élémentaire qui est comme ça. Donc qui est représenté par un carré et de couleur jaune. Alors ensuite, l'élément suivant, c'est l'élément eau, qui est représenté par un cercle de couleur blanc. Ensuite, l'élément feu, qui est représenté par un triangle de couleur rouge. Ensuite, l'élément air ou vent, qui est représenté par un demi-cercle de couleur vert. Et puis, l'élément espace, qui est représenté par la couleur bleue. Et puis, donc voilà pour les cinq éléments. Donc, je ne sais pas si, je pense pas que j'aurai le temps de voir tous les éléments, mais le dernier, l'élément espace, en fait, oui, on le représente sous la forme d'une sphère, en fait, pour montrer l'absence de forme. L'espace étant infini, donc on ne peut pas avoir un objet géométrique qui soit infini, mais pour illustrer cette infinité, en fait, on le représente sous la forme d'une sphère. Et puis, pourquoi il a la couleur bleue? Eh bien, parce que, ici, dans ce contexte-là, la qualité d'espace est associée à l'esprit. L'esprit qu'on associe à la couleur bleue. Bleu comme le ciel bleu, ou bleu comme la nuit. Donc, le bleu de l'espace. Et au final, dans la méditation, on termine avec un tinglé qui représente l'esprit. L'esprit, et qui lui également, comme l'élément espace, a la même forme géométrique parce qu'il a également cette même qualité. En fait, lorsqu'on parle de l'élément espace avec la sphère bleue, on est là déjà en train de sous-entendre la couleur bleue, elle est là. Elle amène la connotation comme quoi on parle de l'espace qui est par essence l'esprit même, cette qualité d'espace que possède l'esprit. Et au final, lorsqu'on en vient à aborder l'esprit dans sa nature même, eh bien cet esprit, elle a également non seulement cette qualité d'espace infini, mais elle a également cette qualité d'être, on va dire, libre ou libre de caractérisation, libre de caractéristiques. Et cette absence de caractéristiques, eh bien, on va la symboliser par cette absence de couleur, par une sphère qui est complètement transparente. Lorsqu'on va toucher à la nature même de l'esprit, elle a cette qualité d'être sans limite, et elle a cette qualité d'être dépourvue de caractéristiques. Vous ne pouvez pas dire que l'esprit est rond, vous ne pouvez pas dire que l'esprit a une forme géométrique, vous ne pouvez pas dire que l'esprit a une substance, etc. Donc même si certains pensent qu'ils ont leur esprit tordu, mais lorsqu'on regarde au niveau de la nature des choses, vous voyez que vous ne pouvez pas caractériser votre esprit de cette façon. Vous ne pouvez pas le caractériser par une forme, vous ne pouvez pas le caractériser par une substance, vous ne pouvez pas le caractériser par une qualité. Toute tentative, vous pouvez essayer, mais vous verrez que cette caractéristique ne représentera pas l'esprit dans sa nature. Et donc, pour terminer, on va aborder en fait l'ordre chronologique, enfin la succession de ces éléments. Pourquoi pendant la méditation on commence d'abord par l'élément terre, ensuite l'élément eau, l'élément feu, l'élément air, l'élément espace, etc. Donc pourquoi on ne commencerait pas par l'élément feu et puis l'élément eau? Bah ouais, pourquoi pas? Donc en fait il y a une raison très profonde. Et donc, comme on a évoqué tout à l'heure, c'est ces qualités des cinq éléments. Donc, non seulement elles se reflètent grossièrement par le fait qu'il y a des éléments qui sont solides, des éléments liquides, etc., et que tout ça interagit entre eux, qui crée donc notre monde à nous. Mais ces cinq éléments, on va le retrouver également dans notre processus de fonctionner, dans notre processus de tomber dans l'illusion. Tout d'abord, donc lorsqu'on vient à l'essence des choses, si notre esprit est dans l'absence de construction, il a cette qualité d'espace. Donc on part de l'élément espace. Donc lorsqu'on ne fait rien de spécial, on sent même naturellement qu'il y a une certaine. On parle d'ouverture d'esprit. Si vous n'avez pas de préjugés ou de discrimination en tête, vous avez une certaine ouverture d'esprit. Vous êtes réceptif. Cette ouverture d'esprit, elle a donc cette qualité d'espace. Et puis de cet espace-là, va apparaître un mouvement, une idée, une pensée. Et cette idée ou cette pensée, ou ce mouvement, donc de cet espace, cette ouverture, va venir un mouvement. Et ce mouvement, c'est la qualité de l'élément vent ou l'élément air. C'est le premier mouvement les choses commencent toujours comme ça. D'une ouverture vient un mouvement. Et ce mouvement, en fait, si on n'y fait rien, il va disparaître. Une pensée, si vous ne y attachez pas, tout ce qui s'élève dans notre esprit, naturellement, disparaît. Mais si cette pensée vous interpelle ou vous allez vous y accrocher, eh bien, de ce simple mouvement va naître une énergie. Donc, il va voir, si vous vient un esprit, cet esprit vous attire, il y a une lumière, il y a une forme de chaleur. Et là, on est donc dans l'élément feu. Et cet élément feu, eh bien, donc, c'est ce qui va commencer à donner corps aux choses. Donc, d'une simple pensée va venir une idée ou une réflexion. Et là, on est donc, il y a une activité qui se met en œuvre qui est de l'ordre de l'élément, feu. Et les choses, voilà, donc lorsque ces éléments vont commencer à s'élaborer, donc il y a une certaine qualité de fluidité associée à l'élément eau jusqu'à, ou une donc, le, pardon, une, donc lorsque les choses voilà, donc commencent à prendre corps, donc ce n'est plus simplement une forme de pensée ou de foisonnement d'énergie d'idées, mais elles vont commencer à prendre corps. Donc il y a une matérialisation qui va tout d'abord apparaître sous la forme de l'élément eau. Et cette matérialisation, eh bien, lorsque elle se solidifie, lorsqu'il y a vraiment une fixation dessus, elle va donc prendre une certaine, elle va devenir tangible. Et là vient l'expression de l'élément terre ou la qualité de terre. Et on se rend compte que finalement, tout notre processus d'être fonctionne comme ça. C'est-à-dire, par exemple, d'abord, de l'ouverture de l'esprit va venir un mouvement mental, et de ce mouvement mental va venir la brillance d'une idée, que ces idées, ensuite, si on continue, on creuse le sujet, eh bien, ça va se devenir manifeste, et de quelque chose qui est d'abord manifestement fluide, eh bien, va se rigidifier. Et tout fonctionne de cette façon. Par exemple, au début, toutes nos émotions, par exemple. Au début, les émotions, elles viennent pas comme ça. Elles viennent d'une idée. Les émotions naissent de nos pensées, de notre façon dualiste de voir les choses. Ces émotions, elles viennent donc voilà, d'abord, donc il y a ce processus d'idées qui se met en place, et puis viennent la solidification par les émotions. Une émotion va devenir douloureuse ou pénible, plus en fait c'est parce qu'on va solidifier les choses. C'est cette rigidité qui va faire qu'on va perdre cette qualité initiale d'espace, et qui va faire donc que tout l'inconfort, toute la souffrance qu'il y a dans ce processus ordinaire de saisir les choses. Processus qui est à nouveau caractérisé par ces cinq éléments. Et tout fonctionne comme ça. Que l'on cogite un projet, ou par exemple, même lorsqu'on rentre dans un conflit, le conflit, il est rarement d'entrée de jeu, on se tape l'un sur l'autre. Il y a toujours un processus plus ou moins rapidement progressif, mais qui se met en place, mais qui est caractérisé par ces cinq éléments. La souffrance du cycle des existences, elle vient de la rigidité, du fait qu'au final, toutes les qualités, la qualité espace essentielle de l'esprit voilée par justement cette rigidité de voir les choses. Oui, une question ? Non ? Et justement, nous, dans notre démarche de reconnaître les choses dans leur nature, eh bien, pour y arriver, on va déconstruire ce processus. On va déconstruire donc cette matérialité, cette solidification qu'on a par rapport à nos perceptions. On va le déconstruire en rendant ça moins rigide, en rendant ça plus fluide. Donc de l'élémentaire, on passe à l'élément eau. Et puis de l'élément eau, on passe à l'élément feu. De l'élément feu à l'élément vent ou mouvement jusqu'à l'espace. Et de cet espace vient donc la reconnaissance de la nature de l'esprit. Et ça, par exemple, je pense que Françoise vous a déjà recommandé la lecture de l'ouvrage de Mingyo Rinpoche, mais par exemple, il le décrit très bien, tout ce processus justement de dissolution, processus par exemple, qui se produit naturellement pendant la mort. C'est une des raisons pour laquelle on considère cet événement qui est ordinairement perçu comme effrayant ou pénible, comme une opportunité particulière de reconnaître la nature des choses, d'avoir justement ce regard qui est au-delà de toute construction. Parce que justement, à ce moment-là, par le processus de déclin, la dissolution des éléments fait que on va plus facilement pouvoir déconstruire justement notre façon ordinaire de voir des choses, notre façon ordinaire de solidifier ou de saisir les choses de façon solide. Eh bien, on les déconstruit de cette façon, dans le processus inverse et qui suit donc ces fameuses étapes pendant le chiné. On part de l'élémentaire pour arriver à l'élément eau, etc. Et on déconstruit ainsi, étape par étape, jusqu'à pouvoir reconnaître la nature de toute chose. Je pense que c'est pas mal, non? On a dit pas mal de choses. Donc, est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce qu'il y a le temps pour des questions?
Ou peut-être un petit moment aussi de méditation
Oui,
un
on
peu
peut
plus
faire
longue.
ça.
Ouais.
Comme oui. Oui.
J'aurais une question parce que dans la tradition hindoue, on associe toujours les cinq éléments aux trois gunas, la tendance expansive, la tendance ascendante, sattva, puis la tendance descendante, l'opacité, tamas. Et dans la tradition bouddhiste, on ne parle pas du tout on ne reconnaît pas les gunas, donc je ne sais pas s'il y a une raison profonde pour ça.
C'est quoi les gunas?
Dans la tradition hindoue, c'est le rajas, sattva et tamas, c'est-à-dire la tendance expansive horizontale, la tendance ascendante et lumineuse, sattva, et puis la tendance à l'opacité ou la tendance descendante, tamas. C'est dans la tradition hindouiste, on associe presque toujours les cinq éléments et les trois gunas. Création, duple, etc. Et dans le bouddhisme, on ne reconnaît pas les gunas. Je me demandais s'il y avait une raison pour ça.
Je crois que c'est une combinaison de deux éléments. Chaque.
Bah, ensuite, je ne sais pas trop. C'est pas un sujet que je connais, donc je n'ai pas. Je ne peux pas trop vous répondre, mais par contre, donc oui, je ne peux pas trop vous répondre là-dessus. Mais donc, par contre, un des éléments qui est important, c'est comme on a dit, les cinq éléments doivent toujours être compris par rapport à un contexte et même dans le bouddhisme. Suivant le contexte, ces cinq éléments peuvent être comprises d'une façon plus ou moins différente.
Si on arrive à ne plus voir dans la dualité, à la non-dualité, alors peut-être l'esprit devient comme l'espace, ouvert, mais alors les choses, on est tout, on peut être rien, enfin, comment dire. Si on arrive à déconstruire tout ce qu'on nous a appris pour voir pour ouvrir
Oui,
l'esprit,
oui, oui, oui. Mais justement, c'est au-delà des mots. Et c'est pour ça qu'on cherche
on a du
à
mal à en parler.
déconstruire. Oui. Mais ensuite, finalement, lorsqu'on observe un peu, dès qu'on touche à la nature des choses, tout est au-delà des mots, même nos expériences ordinaires. Si vous goûtez un bon chocolat, en dehors de dire à quelqu'un que c'était super bon, vous ne pouvez pas vraiment lui faire connaître votre expérience. Ou même pour des choses très simples, finalement. Donc, ces choses qui sont caractérisées par les cinq éléments. Donc elles sont toujours au-delà des mots. Dès qu'on vient à la nature, on touche à la nature des choses, c'est tout de suite au-delà des mots. Oui, enfin,
j'ai
une méditation.
Il y a une question qui est plus sur notre pratique de la méditation du mardi.
Oui.
Une question qui a été parfois posée, moi je ne sais pas y répondre, c'est sur cette dernière forme, quand on arrive sur cette dalle-là, on dit dans la consigne, on doit faire un effort de visualisation où cette forme diminue jusqu'à disparaître complètement. Et la question qui nous a été parfois posée, cette visualisation, qu'est-ce qu'elle symbolise? Qu'est-ce qu'elle elle symbolise, la dissolution
exact.
Finale de...
Oui. En fait... lorsque on fait les méditations du véhicule des mantras secrets, on utilise beaucoup les visualisations. Et, en fait, il y a deux étapes pour dire les choses simplement. Il y a une étape où on visualise, on parle d'étape de génération, et une étape où on va dissoudre cette visualisation. Donc pourquoi? Parce que en fait finalement la visualisation elle-même elle est de l'ordre de la construction mentale. Et en fait donc lorsque vous procédez à cette dissolution, en fait vous arrivez au terme ultime donc des différentes dissolutions. Vous avez dans le chiné on le fait pas, mais ensuite par exemple lorsqu'on procède justement à ce mouvement de déconstruction, on fait dissoudre l'élément terre dans l'élément eau, etc. Et à la fin, donc, le fait donc de faire disparaître ces derniers éléments, c'est pour vraiment, au final, demeurer dans un état méditatif qui est sans construction. Donc, l'idée, c'est ça, dans la phase de dissolution. Vous êtes vraiment... c'est en fait à ce moment-là où vous êtes le plus apte à pouvoir reconnaître la nature des choses parce que vous n'êtes plus dans la construction. Donc, toutes les étapes auparavant, le fait de regarder l'objet ou de le visualiser, elles ont fait partie de la phase de calme mental. On apaise notre esprit et lorsqu'on arrive à ce degré ultime de dissolution, à ce moment-là, il n'y a plus de support. Et en fait, donc pour un pratiquant qui est expérimenté, on entre dans l'étape de vision supérieure ou l'étape de reconnaissance de la nature. Et donc, c'est pour ça qu'on procède à cette dissolution pour pouvoir être vraiment dans un état qui est sans le moindre construction à ce moment-là. Vous voulez faire une méditation pour terminer?
Un petit moment,
pour terminer. Oui, quoi. Vous en pensez quoi? Oui, dédicace.
La vertu
ainsi pratiquée, sans aucune appropriation, dédiée au bien de tout le vivant, en la réalité absolue.
Très bien, merci beaucoup. Merci à Christophe de nous avoir donné
ces explications pour...
sur un sujet extrêmement dense, extrêmement profond.
Merci pour votre attention et votre curiosité.
Très bien. Et moi, j'ai appris des choses. On pratique des fois une méthode sans forcément savoir certaines subtilités des significations derrière des symboles. Donc merci à vous d'être venu si nombreux. Vous trouverez une petite boîte à offrandes en bas de l'escalier ou à côté du temple. On a voulu cette session libre, hein, bien sûr. Si vous voulez nous aider pour entretenir le temple, pour plier le chauffage, il reste forcément. C'est gentil, il n'y a aucune obligation en la matière, mais si vous voulez bien nous aider, vous aurez une petite boîte à offrandes, une boîte bleue en bas de l'escalier. Si vous voulez laisser un petit quelque chose pour qu'on puisse continuer à organiser tout ça.
Et pour merci à vous deux, merci à Françoise et Léon pour organiser tout ça tous les mardis.
Merci beaucoup. Et sinon, la pratique, chaque mardi à 19h30, là.
Aussi, si c'est possible de récupérer.
Bien sûr, bien sûr.